Ivanhoé, chapitre 31. Quoique Cédric n'eût pas une grande confiance en Ulrika, il n'oublia pas de faire part de ce qu'elle lui avait dit au chevalier noir et à Locksley. Ceux-ci furent charmés d'apprendre qu'ils avaient dans la place un ami qui pourrait, au moment critique, faciliter leur entrée dans le fort. Ils tombèrent donc facilement d'accord avec le Saxon qu'un assaut, quels que fussent les désavantages qu'il présentait, devait être tenté comme seul moyen de délivrer les prisonniers qui se trouvaient au pouvoir du cruel Front de Bœuf. « Le sang royal d'Alfred est en danger !» s'écria Cédric. « L'honneur d'une noble dame est en péril !» dit le chevalier noir. « Et par le Saint-Christophe dont l'image est sur mon baudrier !» ajouta le brave yeoman, n'y aurait-il d'autre motif que la sûreté de ce pauvre varlet, de ce fidèle Wamba, je risquerais un de mes membres plutôt que de laisser toucher un cheveu de sa tête. « Et moi de même !» s'écria le moine. « Oui, messire, je crois bien qu'un fou, je veux dire, voyez-vous, un fou qui se conduit avec tant d'adresse et de présence d'esprit, et dont la compagnie ferait paraître un verre de vin aussi bon et aussi agréable qu'une tranche de meilleur jambon. » Je dis donc, mes frères, qu'un tel fou ne manquera jamais d'un sage clair qui prie ou se batte pour lui dans un cas épineux, tant que je pourrai dire une messe ou manier une pertuisane. » En parlant ainsi, il fit tourner sa lourde hallebarde par-dessus sa tête avec autant de facilité que l'eût fait un berger avec sa houlette. « C'est vrai, pieux clair, » reprit le chevalier noir. « Vrai comme si Saint Dunstan lui-même l'avait dit. Et maintenant, brave Locksley, ne serait-il pas bien que le noble Cédric se chargeât de diriger l'assaut ?»« Non, sur ma foi, » répondit Cédric. « Je n'ai jamais étudié l'art d'attaquer ou de défendre les repères du pouvoir tyrannique que les Normands ont élevé dans ce malheureux pays. Je combattrai au premier rang. » Mais mes honnêtes voisins savent bien que je ne suis pas un soldat habile dans les règles de la guerre, ni dans l'attaque des forteresses. Puisqu'il en est ainsi, noble Cédric, dit Locksley, je veux bien prendre sur moi la direction des archers, et je consens que vous me pendiez aux chaînes qui nous servent de cible si nous permettons aux défenseurs de se montrer sur les murailles sans être percés d'autant traits qu'il y a de gousses d'ail dans un jambon le jour de Noël. « Bien parlé, hardi yeoman, répondit le chevalier noir. « Et si l'on me juge digne de prendre un commandement, et qu'il se trouve ici quelques soldats disposés à suivre un véritable Anglais, car je puis assurément me donner ce titre, je suis prêt à employer pour votre cause mon expérience, à les conduire à l'attaque de ces murailles. » Les rôles, ainsi distribués entre les chefs, on livra le premier assaut, dont le lecteur a déjà vu le résultat. Après la prise de la barbacane, le chevalier noir envoya à Locksley la nouvelle de cet heureux événement, lui recommandant en même temps de surveiller attentivement le château afin d'empêcher les défenseurs de réunir leurs forces pour faire une sortie soudaine et de se remettre en possession de l'ouvrage avancé qu'ils avaient perdu. Le chevalier désirait vivement éviter d'être attaqué, sachant bien que les hommes qu'il conduisait, étant des volontaires non exercés, imparfaitement armés et peu habitués à la discipline, auraient, dans une attaque soudaine, un grand désavantage en face des vieux soldats des chevaliers normands. Ces vétérans étaient pourvus d'armes offensives et défensives, et pour résister à l'ardeur et à la grande énergie des assiégeants, ils avaient ce sang-froid qui provient d'une discipline parfaite et de l'usage habituel des armes. Le chevalier employa l'intervalle des deux attaques à faire construire une espèce de pont flottant ou long radeau au moyen duquel il espérait traverser le fossé, en dépit des efforts de l'ennemi. Ce fut un travail de quelque durée, mais les chefs le regrettèrent d'autant moins qu'ils donnaient à Ulrika le temps d'exécuter son plan de diversion en leur faveur, quel qu'il pût être. Quand ce radeau fut terminé, le chevalier noir s'adressa ainsi aux assiégeants. « Nous ne gagnons rien à rester ici, mes amis. Le soleil se couche à l'occident, et j'ai sur les bras une affaire qui ne me permettra pas de rester avec vous un jour de plus. Et puis, ce sera un miracle si les cavaliers n'arrivent pas d'York au secours des assiégés. Il nous faut donc accomplir promptement notre dessein. Qu'un de vous aille dire à Locksley de faire une décharge de flèches de l'autre côté du château et de se porter en avant comme pour monter à l'assaut. Quant à vous, mes vaillants Anglais, tenez-vous près de moi et préparez-vous à lancer le radeau sur le fossé dès que la poterne de notre côté sera ouverte. Suivez-moi hardiment dans ce passage et aidez-moi à enfoncer cette porte de sortie pratiquée dans la grande muraille du château. Que ceux d'entre vous qui répugneraient à ce service ou qui ne sont pas suffisamment armés pour le faire garnissent le sommet de la barbacane. Tirez les cordes de votre arc jusqu'à vos oreilles et abattez de vos traits tous ceux qui paraîtront sur le rempart. Noble Cédric, veux-tu prendre le commandement de ceux qui resteront ici ? Non, par ma foi, par l'âme des Reward, s'écria le Saxon. Je ne me pique pas de conduire les autres, mais que la postérité me maudisse dans ma tombe si je ne suis pas un des premiers à te suivre partout où tu iras. Cette querelle est la mienne, et il est convenable que je sois en tête des combattants. Cependant, réfléchis, noble Saxon, dit le chevalier. Tu n'as ni aubert, ni corselet, ni rien que ce léger aume, un bouclier et une épée. Tant mieux, répondit Cédric, je serai plus leste pour escalader ces murs, et pardonne-moi cette vanterie, sire chevalier. Tu verras aujourd'hui un Saxon se présenter au combat, la poitrine découverte, aussi hardiment que l'ait jamais fait un Normand revêtu de ce corselet d'acier. Eh bien donc, au nom de Dieu, dit le chevalier, ouvrez la porte et lancez le radeau. Le passage qui conduisait de la muraille intérieure de la barbacane au fossé et qui correspondait à une poterne faite dans le mur du château s'ouvrit brusquement. Le pont volant fut lancé et bientôt il flotta sur les eaux, s'étendant entre le château et l'ouvrage avancé et formant un passage glissant et dangereux pour deux hommes de front. Sentant toute l'importance d'une attaque prompte, le chevalier noir, suivi de près par Cédric, s'élança sur le pont et gagna la rive opposée. Armé de sa hache, il assaillit la poterne à coups redoublés, protégé en partie contre les traits et les pierres lancés des remparts par les décombres du premier pont-levis que le Templier avait démoli en abandonnant la barbacane, laissant le contrepoids encore fixé à la partie supérieure de l'entrée. Les compagnons du chevalier n'avaient pas d'abri semblable. Deux d'entre eux furent à l'instant tués par des viretons. Quelques-uns tombèrent dans le fossé, les autres se retirèrent précipitamment dans la redoute. La situation dans laquelle se trouvaient le chevalier noir et Cédric était devenue vraiment dangereuse, et elle l'eût été davantage encore si les archers restés dans la barbacane n'eussent tiré constamment sur tous les hommes d'armes qui se montraient sur les remparts, distrayant ainsi leur attention et offrant par là un répit à leur chef contre la grêle d'armes de jet qui les aurait exterminés. Mais leur position n'en était pas moins extrêmement périlleuse et elle s'aggravait à chaque instant. « Honte à vous tous !» s'écria de Bracy aux soldats qui l'entouraient. « Vous vous donnez le titre d'archer et vous laissez ces deux chiens maintenir leurs portes sous les murs du château ? Jetez bas les pierres de couronnement du rempart, si vous ne pouvez mieux faire. Vite, des pioches et des leviers, poussez cette grande corniche !» Et il indiqua une pierre énorme qui se projetait en dehors du parapet. En ce moment, les assiégeants virent flotter un drapeau rouge sur l'angle de la tourelle qu'Ulrika avait désignée à Cédric. Le brave yeoman Locksley fut le premier qui l'aperçut, et il gagna en toute hâte l'ouvrage avancé, impatient d'assister à l'assaut. Saint-Georges, s'écria-t-il, le joyeux Saint-Georges pour l'Angleterre, à la charge, hardi yéomen, laisserez-vous le bon chevalier et le noble Cédric attaquer seul cette poterne? En avant donc, moine enragé, et montre-nous que tu sais combattre pour ton rosaire. Et vous, brave yéomen, en avant, le château est à nous, nous avons des amis dans l'intérieur. Voyez ce drapeau, c'est le signal convenu. Torquilston est à nous. Songez à l'honneur, songez au butin. Encore un effort et la place est à nous. » En même temps, il banda son arc et traversa d'un trait la poitrine d'un des hommes d'armes qui, sous la direction de De Bracy, travaillait à détacher un fragment du couronnement pour le précipiter sur la tête de Cédric et du chevalier noir. Un second soldat saisit la pince de fer des mains du mourant, et déjà il avait ébranlé la corniche, quand une flèche l'atteignit à la tête et le renversa mort dans le fossé. Les hommes d'armes furent frappés de crainte. Nulle armure ne semblait à l'épreuve du tir de ce terrible archer.
« Reculerez-vous, lâche !» cria De Bracy. « Montjoie et Saint-Denis, donnez-moi ce levier !»
Et saisissant les pieux, il attaqua à son tour la corniche ébranlée. Elle était de taille. Si on l'eût précipité, non seulement à détruire le reste du pont-levis, mais encore à engloutir le grossier plancher sur lequel le chevalier noir et Cédric avaient traversé le fossé. Tous virent le danger, et les plus audacieux, jusqu'au vaillant moine lui-même, hésitèrent à mettre le pied sur le pont volant. Trois fois, Locksley lança son trait sur De Bracy, et trois fois la flèche rebondit sur l'impénétrable armure du chevalier normand.
« Maudite soit ta côte de maille espagnole !» s'écria Locksley. « Si elle eût été fabriquée par un forgeron anglais, ses flèches l'eussent traversée aussi aisément qu'une côte de soie ou de toile. »
Puis il se mit à crier de toutes ses forces.
« Camarade, ami, noble Cédric, arrière, une pierre énorme va tomber !»
Son avertissement ne fut pas entendu, car le bruit retentissant que le chevalier noir faisait en frappant sur la poterne eut absorbé le son de 20 trompettes de guerre. En ce moment, le fidèle Gert s'élança sur le radeau pour avertir Cédric du danger qui le menaçait, ou pour le partager avec lui. Mais son avis fut arrivé trop tard, la corniche massive était déjà ébranlée, et De Bracy, qui redoublait d'efforts, était sur le point d'accomplir son dessein, lorsque la voix du Templier retentit à son oreille.
« Tout est perdu, De Bracy, le château est en feu !»«
Tu es fou de parler ainsi !» répliqua le chevalier.
« Les flammes ont enveloppé le côté de l'Occident !» reprit le Templier. « Je me suis vainement efforcé de l'éteindre !»
Briand de Boisguibert donnait ce terrible avis avec le sang-froid qui faisait le fond de son caractère, mais il ne fut pas reçu aussi tranquillement par son compagnon étonné.
« Saint du paradis !» s'écria De Bracy. « Qu'allons-nous devenir ? Je fais vœu d'offrir à Saint-Nicolas de Limoges un chandelier d'or pur. »«
Épargne tes vœux !» répondit le chevalier. « Et écoute-moi, descends avec les hommes comme pour opérer une sortie. Ouvre la poterne toute grande. Il n'y a là que deux hommes qui aient passé le radeau. Rejette-les dans le fossé et cours à ta barbacane. » Je vais faire une sortie par l'entrée principale, et j'attaquerai la lunette du côté opposé. Si nous pouvons regagner ce poste, sois sûr que nous nous y maintiendrons jusqu'à ce que nous soyons secourus, ou du moins jusqu'à ce qu'on nous accorde une capitulation honorable.
« J'approuve cette idée, » s'écria De Bracy. « Je remplirai fidèlement le rôle que tu me destines.
Templier, tu ne m'abandonneras pas. »«
Foi de chevalier, non !»
répondit Briand de Boisguilbert.
« Mais au nom du ciel, hâte-toi !»
De Bracy s'empressa de réunir ses hommes et se précipita vers la poterne qu'il fit ouvrir à l'instant. À peine cela fut-il fait que, par une force surhumaine, le chevalier noir se fraya un chemin. Malgré les efforts de De Bracy et de ses hommes, il pénétra dans l'intérieur. Deux des plus avancés tombèrent aussitôt sous ses coups. Les autres reculèrent, en dépit des efforts que faisait De Bracy pour les retenir.
« Chien !» s'écria De Bracy. « Souffrirez-vous que deux hommes s'emparent de notre seule voie de salut ?»«
C'est le diable !»
dit un vieux vétéran tout en reculant devant les coups de leur noir antagoniste.
« Et quand ce serait le diable ?»
reprit De Bracy. « Reculerez-vous devant lui jusque dans la gueule de l'enfer ?» Le château brûle derrière nous, infâme poltron. Que le désespoir vous donne du courage, ou faites-moi place. Je veux me mesurer avec ce redoutable champion. » De Bracy soutint en cette rencontre la renommée qu'il s'était acquise dans les guerres civiles de cette terrible époque. Le couloir voûté dans lequel la poterne donnait entrée et où ces deux redoutables champions combattaient maintenant corps à corps retentissaient des coups furieux qu'il se portait. De Bracy avec son épée et le chevalier noir avec sa hache gigantesque. Enfin, le Normand reçut un coup dont la violence fut en partie amortie par son bouclier, car sans cela, De Bracy ne s'en fut jamais relevé, mais qui néanmoins descendit sur son cimier avec une telle violence qu'il tomba de tout son long sur le sol.
« Rends-toi, De Bracy !»
dit le chevalier noir en se penchant sur lui et présentant au bar de sa visière le fatal poignard avec lequel les chevaliers achevaient leurs ennemis abattus et que l'on appelait le poignard de miséricorde.
« Rends-toi, Maurice De Bracy !»
Secouru ou non secouru, sinon tu es un homme mort.
Je ne veux pas me rendre, répliqua De Bracy d'une voix faible, à un vainqueur inconnu. Dis-moi ton nom ou dispose de ma vie. Il ne sera jamais dit que Maurice De Bracy a été le prisonnier d'un rustre sans nom.
Le chevalier dit quelques mots à l'oreille du vaincu.
Je me rends. Secouru ou non secouru, je suis votre prisonnier.
Répondit le Normand, en faisant succéder à un ton d'opiniâtreté fière et résolue, celui d'une soumission forcée, mais respectueuse.
« Rends-toi à la barbacane, » dit le vainqueur d'un ton d'autorité, « et attends-y mes ordres. »«
Permettez-moi d'abord de vous apprendre, » dit De Bracy, « ce qu'il vous importe de savoir. Wilfried d'Ivanhoé est ici, blessé et prisonnier. » Il périra dans l'incendie s'il n'est secouru à l'instant.
Wilfried d'Ivanhoé ! S'écria le chevalier noir. Prisonnier et en danger de périr ? La vie de tous les habitants du château me répondra de la sienne. Où est-il ? Où est son cachot ?
Montez par cet escalier tournant, dit De Bracy. Il conduit à l'appartement qu'il occupe. Voulez-vous m'accepter pour guide ? Ajouta-t-il d'une voix soumise.
Non. « Va attendre mes ordres dans la redoute. Je ne me fie pas à toi, De Bracy !»
ajouta le chevalier noir. Pendant ce combat et le court dialogue qu'il avait suivi, Cédric, à la tête d'un corps de combattants qui avait traversé le pont dès qu'ils avaient vu s'ouvrir la poterne, et parmi lesquels se faisait remarquer le moine, poursuivait les soldats abattus et désespérés de De Bracy. Les uns demandaient grâce, les autres tentaient une vaine résistance. Mais la plus grande partie cherchait un refuge dans la grande cour du château. De Bracy se releva de terre et jeta sur son vainqueur un regard humilié.
« Il ne se fit pas à moi, » répéta-t-il. « Mais ai-je mérité sa confiance ?»
Alors il ramassa son épée, ôta son casque en signe de soumission, se rendit à la barbacane et remit son épée à Locksley, qu'il rencontra sur son chemin. Le feu augmentait de violence. Les progrès en devinrent visibles dans la salle où Wilfried reposait, sous la garde attentive de la juive Rebecca. Il avait été réveillé de son court sommeil par le bruit de la bataille, et Rebecca, à son instant de prière, s'était de nouveau placée à la fenêtre pour suivre et lui raconter le résultat de l'attaque. Pendant quelque temps, la vue des combattants lui fut interceptée par l'accroissement d'une fumée étouffante qui tourbillonnait dans l'appartement. Les cris « De l'eau ! De l'eau !» qui dominaient même le fracas de la bataille, leur firent comprendre le nouveau danger qui les menaçait.
« Le château est en feu !» dit Rebecca. « Il brûle ! Que faire pour nous sauver ?»«
Fuyez, Rebecca ! Mettez votre vie en sûreté !» dit Ivanhoé, car nul secours humain ne peut sauver la mienne.
Je ne fuirai pas, répondit Rebecca. Nous serons sauvés ou nous périrons ensemble. Et cependant, grand Dieu, mon père, quel sera son destin?
En ce moment, la porte de la salle s'ouvrit et le Templier se présenta. Son aspect était effrayant. Son armure dorée était brisée et couverte de sang, et les plumes qui surmontaient son casque étaient en partie arrachées ou à demi brûlées.
« Je t'ai donc trouvé, » dit-il à Rebecca. « Tu vas voir que je tiendrai ma promesse de partager avec toi ma bonne ou ma mauvaise fortune. Il ne reste plus qu'une voie de salut. Je me suis frayé un chemin à travers 1000 dangers pour te l'indiquer. Lève-toi et suis-moi à l'instant. »«
Seul ?» répondit Rebecca. « Je ne veux pas te suivre. » « Si tu es né d'une femme, s'il y a en toi seulement un peu de charité humaine, Si ton cœur n'est pas aussi dur que ta cuirasse, sauve mon vieux père, sauve ce chevalier blessé. »
Un chevalier ?
Répondit le Templier avec son calme caractéristique. Un chevalier, Rebecca, doit savoir supporter la mort, qu'elle se présente à lui sous la forme de l'épée ou celle de la flamme. Et qui se soucie du sort d'un juif ?
Sauvage guerrier, reprit Rebecca, je périrai plutôt dans les flammes que d'accepter la vie de tes mains.
Tu n'auras pas à choisir, Rebecca. Une fois, tu l'as emporté sur moi, mais jamais aucun mortel ne m'a bravé deux fois. » En disant ces mots, il saisit dans ses bras la jeune fille terrifiée qui remplissait l'air de ses cris et l'emporta hors de la chambre malgré ses lamentations et sans avoir égard aux menaces et aux défis qu'Ivanhoé fulminait contre lui.
« Chien du temple, opprobre de ton ordre, laisse cette jeune fille !» « Traître de Bois-Guilbert, c'est Ivanhoé qui te l'ordonne. Scélérat, je répandrai tout le sang de ton cœur. »
« Sans tes cris, Wilfrid, je ne t'aurais pas trouvé, » dit le chevalier noir, qui en ce moment entrait dans la chambre.
« Si tu es un véritable chevalier, » dit Wilfrid, « ne pense pas à moi. Suis ce ravisseur, sauve Lady Rowena, sauve le noble Cédric. »
« Chacun aura son tour, » répondit le chevalier au cadenas. « Mais à toi d'abord. » Et s'emparant d'Ivanhoé, il l'emporta, avec autant d'aisance que le Templier avait enlevé Rebecca, s'élançant avec lui vers la poterne, et là, ayant confié son fardeau aux soins de deux yéomènes, il rentra dans le château pour aider à sauver les autres prisonniers. Une des tours était déjà la proie des flammes, qui s'élançaient avec fureur par toutes les fenêtres et les meurtrières. Mais dans les autres parties de l'édifice, la grande épaisseur des murs et des voûtes résistait au progrès des flammes, et la fureur de l'homme l'emportait sur la fureur du terrible élément. Les vainqueurs poursuivaient, de chambre en chambre, les défenseurs du château, assouvissant dans leur sang la vengeance qui depuis si longtemps les animait contre les soldats du tyran Front de Bœuf. La plupart des assiégés résistèrent jusqu'au dernier moment. Peu d'entre eux demandèrent quartier. Nul ne l'obtint. L'air était rempli des gémissements et du cliquetis des armes. Les planchers ruisselaient du sang des malheureux qui expiraient dans des transports de rage. Au milieu de cette scène de désordre, Cédric s'élança à la recherche de Rowena, tandis que le fidèle Goethe le suivait de près à travers la mêlée, négligeant son propre salut et détournant les coups que l'on portait à son maître. Le noble Saxon fut assez heureux pour gagner l'appartement de sa pupille au moment où elle venait d'abandonner tout espoir et tenait avec angoisse un crucifix sur son sein, s'attendant à une mort immédiate. Il la confia à Goethe pour la conduire en sûreté jusqu'à la Barbacane, dont la route était maintenant débarrassée d'ennemis et encore à l'abri des flammes. Ce premier devoir accompli, le loyal Cédric se hâta de courir à la recherche de son ami Athelstan, décidé à tous les sacrifices personnels pour sauver le dernier rejeton de la royauté saxonne. Mais, avant que Cédric fût parvenu jusqu'à l'antique salle dans laquelle il avait été lui-même retenu captif, le génie inventif de Wamba avait trouvé moyen de s'échapper avec son compagnon d'infortune. Lorsque le bruit et le tumulte annoncèrent qu'on était au plus fort du combat, le bouffon se mit à crier de toute la force de ses poumons « Saint-Georges et le dragon, le bon Saint-Georges pour la joyeuse Angleterre, le château est à nous !» Et pour rendre ses cris encore plus terribles, il heurtait l'une contre l'autre des armures rouillées qu'il avait trouvées éparses dans la salle. La sentinelle, qu'on avait placée dans l'antichambre et dont l'esprit était déjà ébranlé par la terreur, en entendant le bruit fait par Wanda, fut saisie d'épouvante, et sans songer à fermer la porte de la salle, courut dire aux Templiers que l'ennemi avait pénétré dans les appartements du château. Pendant ce temps, les prisonniers, dont rien n'arrêtait la fuite, s'échappèrent par l'antichambre, et de là gagnèrent la cour du château, qui était en ce moment le théâtre d'une dernière lutte. Là se trouvait le fier Templier, monté sur son coursier et entouré de plusieurs soldats de la garnison, tant à pied qu'à cheval, qui avaient réuni leurs efforts à ceux de ce chef renommé, afin d'assurer la dernière chance de retraite qui leur resta. Par son ordre, le pont-levis avait été abaissé. Mais le passage en était barré par l'ennemi, car les archers, qui jusque-là avaient seulement surveillé le château de ce côté, n'eurent pas plutôt vu les flammes éclater et le pont se baisser qu'ils se portèrent en foule sur ce point, aussi bien pour mettre obstacle à la fuite de la garnison que pour assurer leur part du butin avant que le château fût brûlé. D'un autre côté, une partie des assiégeants entrés par la poterne se portaient en ce moment vers la grande cour et attaquaient avec furie le reste des défenseurs, qui se trouvaient ainsi assaillis de deux côtés à la fois. Animés par le désespoir et soutenus par l'exemple de leur chef indomptable, cette poignée de soldats se défendit avec la plus grande valeur. Bien armés, d'ailleurs, ils réussirent plus d'une fois à repousser les assaillants, quoique ils leur fussent très inférieurs en nombre. Rebecca, placée à cheval devant un des esclaves sarrasins du Templier, était au centre de ce petit groupe, et Bois Guilbert, malgré la confusion de cette lutte sanglante, veillait avec le plus grand soin à sa sûreté. Il revenait souvent près d'elle, et négligeant sa propre défense, lui faisait un rempart de son bouclier triangulaire à plaques d'acier. Puis, par un mouvement rapide, il s'élançait en proférant son cri de guerre, assommait les plus avancés des assaillants, et presque aussitôt reparaissait à la bride du cheval de la Juive. Athelstan, comme le lecteur le sait, était nonchalant mais non dépourvu de courage. En voyant la femme voilée que le Templier protégeait avec tant de sollicitude, il ne douta point que ce ne fût Rowena que le chevalier voulait enlever, malgré toute la résistance qu'on pourrait lui opposer. « Par l'âme de Saint-Édouard ! » s'écria-t-il. « Je l'arracherai à cet orgueilleux chevalier, et il mourra de ma main. »«
Prenez garde à ce que vous allez faire !» s'écria Wamba. « Main trop prompte, prend une grenouille pour un poisson. »« Par ma marotte, ce n'est point là, Lady Rowena. Voyez seulement ses longues tresses noires. »« Oui, da, si vous ne savez pas distinguer le noir du blanc, vous pouvez y aller. Mais moi, je ne vous suivrai pas. Je ne veux pas risquer mes os sans savoir pour qui. » « Et vous qui êtes sans armure encore, réfléchissez donc. Un bonnet de soie ne saurait arrêter une lame d'acier. Si l'entêté veut aller à l'eau, il faut bien qu'il se mouille. Deus vobiscum. Très vaillant Athelstan, » ajouta-t-il en dernier lieu, lâchant la tunique du Saxon qu'il avait tenue jusque-là. Saisir une masse d'armes que venait de laisser tomber la main d'un mourant, s'élancer sur la troupe du Templier, et frappant avec une grande rapidité à droite et à gauche, renversant à chaque coup un guerrier, ce fut, pour la force herculéenne d'Athelstan, animée alors d'une fureur peu commune, l'ouvrage d'un seul instant. Il se trouva bientôt à deux pas de Bois Guilbert, qu'il défia de sa voix la plus forte. « Détourne-toi, mécréant de Templier ! Laisse en liberté celle que tu es indigne de toucher ! Détourne-toi ! « Membre d'une bande de brigands, d'assassins et d'hypocrites !»«
Chien !» s'écria le Templier en grinçant des dents. « Je t'apprendrai à blasphémer le Saint-Ordre du Temple de Sion !»
En disant ces mots, il fit faire demi-volte à son cheval et se dressa sur les étriers de manière à profiter de tout l'avantage de sa position. Et il asséna un coup terrible sur la tête d'Athelstan. Wamba avait eu raison de dire qu'un bonnet de soie ne garantissait pas d'une lame d'acier. L'arme du Templier était si bien affilée qu'elle trancha, comme si c'eût été une branche de saule, le manche fort et ferré de la masse d'armes que l'infortuné Saxon avait levée pour parer le coup, et, descendant sur sa tête, étendit le géant aux pieds de son ennemi.
« Bosséant, Bosséant !» s'écria Bois Guilbert d'une voix de tonnerre. « Périssent ainsi tous les détracteurs des chevaliers du Temple !»
Profitant de la terreur que la chute d'Athelstan avait répandue parmi les Saxons, il cria à haute voix
« Que ceux qui veulent se sauver me suivent !»
Puis il poussa son cheval vers le pont-levis et dispersa les archers qui voulaient en intercepter le passage. Il fut suivi par ses sarrasins et cinq ou six hommes d'armes à cheval. la retraite du Templier fut rendue périlleuse par la quantité de flèches dirigées contre lui et sa petite troupe. Mais cela ne l'empêcha pas de gagner au galop la Barbacane, dont, selon son premier projet, il jugeait possible que De Bracy fût encore resté maître.
« De Bracy ! De Bracy ! » s'écria-t-il en approchant. « Es-tu là ?»«
Je suis ici, » répondit De Bracy, « mais prisonnier. »
« Puis-je te secourir ?»«
Non, » répliqua De Bracy, « je me suis rendu, secouru ou non secouru, et je veux garder ma parole. Sauve-toi, les éperviers sont lâchés. Mets la mer entre l'Angleterre et toi, je ne puis t'en dire davantage. »«
Eh bien, » dit le Templier, « puisque tu veux rester là, souviens-toi que j'ai dégagé ma parole. Que les éperviers soient où bon leur semble, peu m'importe. Je crois que les murs de la commanderie de Templestowe m'offriront contre un abri suffisant, et le héron pourra braver leurs serres. » À ces mots, il partit au galop suivi de ses hommes. Ceux des défenseurs du château, qui n'avaient pu se procurer des chevaux, continuèrent, après le départ du Templier, une lutte désespérée, moins dans l'espoir de se sauver que de vendre chèrement leur vie. Le feu s'était rapidement étendu dans toutes les parties du château, lorsque celle qui avait allumé l'incendie parut au sommet d'une tour, costumée comme une des anciennes furies de la mythologie scandinave et hurlant des chants de guerre qu'avaient l'habitude d'entonner sur les champs de bataille les scaldes des Saxons encore païens. Sa longue chevelure grise tombait en désordre de sa tête découverte, les délices enivrantes d'une vengeance satisfaite brillaient dans ses yeux, égarés par la folie. Elle brandissait la quenouille qu'elle tenait à la main, comme si elle eût été une des fatales sœurs qui filent et tranchent le cours des destinées humaines. La tradition a conservé quelques-unes des strophes sauvages de l'hymne barbare qu'elle chantait, avec une sorte de frénésie au milieu de cette scène de feu et de carnage. Aiguisez le brillant acier, fils du dragon blanc, allume la torche, fille d'Angeist. L'acier ne brille pas pour découper les viandes du banquet. Il est d'une trempe ferme et dure, il est bien aiguisé. La torche n'est pas destinée à la chambre nuptiale. Sa flamme sulfureuse a des éclairs bleuâtres. Aiguisez l'acier, les corbeaux croassent. Allumez la torche, Zernebock rugit. Aiguisez l'acier, fils du dragon. Allume la torche, fille d'Angeist. Le noir nuage est descendu jusque sur le château du Tann. L'aigle crie, il est en croupe sur le nuage. Ne crie pas, sombre cavalier du sombre nuage, ton festin se prépare. Les vierges de Walala regardent ce qui se passe. La race d'Angeist va leur envoyer des hôtes. Secouez vos tresses noires, vierges du Walala, et frappez en signe de joie vos tambours retentissants. Bien des pas orgueilleux iront frapper à vos demeures, bien des têtes couronnées d'un casque. Le soir s'assied triste sur le chapeau du Tann, les noirs nuages s'amoncellent alentour, bientôt ils seront aussi rouges que le sang d'un preux. Le destructeur des forêts dressera vers eux sa rouge crête, celui qui en brillant consume les palais et qui développe sa bannière embrasée, rouge, vaste et sombre, au-dessus de la lutte des vaillants. Sa joie est dans le cliquetis des épées et des boucliers rompus. Il aime à lécher le sang fumant qui s'échappe des blessures. Tous doivent périr, l'épée fend les casques, la robuste armure est transpercée par la lance, le feu dévore le palais des princes, les machines renversent les défenseurs du camp. Tout doit périr, la race d'Angeist a disparu, le nom d'Orsa a disparu. Ne reculez donc pas devant votre destin, fils de l'épée. Que vos épées boivent le sang comme si c'était du vin. Repaissez-vous dans ce festin du carnage à la lueur de vos palais embrasés. Que vos épées ne faiblissent pas tant que votre sang coulera. N'épargnez personne par crainte ou par pitié, car la vengeance n'a qu'une heure. La haine la plus invétérée doit s'éteindre, et moi aussi je dois disparaître. Déjà, les flammes gigantesques avaient surmonté tous les obstacles et s'élevaient dans le crépuscule, semblables à un fanal immense qui éclairait au loin le pays environnant. Chaque tour s'affaissait l'une après l'autre, ainsi que les toitures avec leurs poutres en flammes, et les combattants furent enfin contraints d'abandonner la grande cour. Les vaincus, dont il restait un très petit nombre,
se dispersèrent et s'enfuirent dans la forêt voisine. Les vainqueurs, rassemblés en bandes nombreuses, regardèrent avec un étonnement mêlé de crainte les flammes qui projetaient sur leurs armes un reflet d'un rouge foncé. La forme fantastique et sauvage de la Saxonne Ulrika resta visible pendant longtemps sur le point élevé qu'elle avait choisi, agitant ses bras dans l'espace avec une exaltation furieuse, comme si elle se fût sentie la reine de l'incendie qu'elle avait allumé. Enfin, dans un écroulement terrible, toute la tour s'effondra et elle périt dans les flammes qui avaient consumé son tyran. Un long silence d'horreur régna parmi les spectateurs de cette épouvantable scène, et pendant plusieurs minutes, ils n'agitèrent leurs mains que pour faire le signe de la croix. La voix de Locksley se fit alors entendre. « Réjouissez-vous, Yeomen, la tanière des tyrans n'existe plus. Que chacun de vous aille déposer son butin au lieu ordinaire de nos rendez-vous, sous le grand chêne de l'Arc, dans le Arthyle Walk. C'est là qu'à la pointe du jour, nous ferons un juste partage entre nos compagnons et nos dignes alliés du produit de ce grand acte de vengeance. » Chapitre 32. Le jour commençait à poindre sur les clairières de la forêt. Chaque feuille rayonnait d'une perle de rosée. La biche conduisait son faon de l'abri des hautes bruyères jusqu'aux endroits plus découverts du bois, et le chasseur n'y était pas encore à l'affût du cerf majestueux marchant à la tête de sa jeune famille. Les outlaws étaient tous assemblés autour du chêne de l'Arc dans le Arthyll Walk, où ils avaient passé la nuit à se remettre des fatigues du siège, les uns en recourant au vin, les autres au sommeil, beaucoup en faisant le récit des événements du jour et en calculant le prix du monceau de butin que la victoire avait mis à la disposition de leur chef. Les dépouilles, en effet, étaient très considérables, car, bien que le feu eût beaucoup détruit, une grande quantité de vaisselle, d'or et d'argent, de riches armures et de magnifiques vêtements avaient été sauvés par les efforts des intrépides outlaws, insensibles à tous les dangers lorsque de pareilles dépouilles étaient leur récompense. Telle était cependant la rigueur de leur loi, que pas un d'entre eux n'avait osé s'approprier la moindre partie du butin. Tout fut entassé en un seul monceau pour que le chef en fît lui-même la distribution. Le lieu du rendez-vous était un vieux chêne, mais ce n'était pas le même arbre sous lequel Locksley avait précédemment conduit Gurt et Wamba. Cet arbre était situé au centre d'un amphithéâtre boisé, à un demi-mille du château détruit de Torquilstone. Ce fut là que Locksley prit place sur un trône de gazon, construit sous les branches touffues du chêne gigantesque, et tous ses compagnons forestiers se groupèrent autour de lui. Il assigna au chevalier noir une place à sa droite et fit asseoir Cédric à sa gauche. « Permettez-moi ma liberté, noble sire, leur dit-il, mais dans ces clairières, je suis roi. Elles forment mon royaume, et mes rudes sujets, que vous voyez, respecteraient peu mon pouvoir si, dans mes domaines, je cédais la préséance à qui que ce fût. Maintenant, archer, qui a vu notre chapelain? Où est notre joyeux ermite? Une messe commence bien la journée. » Personne n'avait vu le clerc de Copmanhurst. « Dieu nous protège !» dit le chef des outlaws. « J'espère que ce joyeux prêtre n'aura été retenu que par l'attrait de la bouteille. Quelqu'un l'aurait-il vu depuis la prise du château ?»« Moi ? » s'écria le meunier. « Je l'ai vu rôdant autour de la porte d'un cellier, et jurant par tous les saints du calendrier qu'il saurait le goût du vin de Gascogne de Front de Bœuf. » Alors, fasse les saints qu'il n'ait pas vidé trop de bouteilles, et qu'il n'ait été enseveli sous les décombres du château. Va, meunier, prends avec toi assez d'hommes, fouille la place où tu l'as vu la dernière fois, jette l'eau du fossé sur les ruines brûlantes, je les retournerai pierre à pierre pour retrouver mon brave chapelain. » Le grand nombre d'archers qui se précipitèrent pour accomplir ce devoir, au moment où la distribution du butin allait avoir lieu, prouva combien la troupe avait à cœur la sûreté de ce père spirituel. « En attendant, continuons notre affaire, » dit Locksley. Car lorsque cette action audacieuse aura été ébruitée, les bandes de De Bracy, de Malvoisin et des autres alliés de Front de Bœuf se mettront en marche contre nous, et nous ferons bien, pour notre sécurité, de nous éloigner d'ici. Noble Cédric, continua-t-il en se tournant vers le Saxon, nous avons partagé ce butin en deux portions égales. Choisis celle qui te convient, pour la distribuer parmi ceux de tes vassaux qui nous ont secondés dans cette entreprise.
Brave Yeoman, répondit Cédric, mon cœur est chargé de tristesse. Le noble Athelstan de Koningsbourg, le dernier descendant du Saint Confesseur, n'est plus. Avec lui, nos espérances sont perdues sans retour. L'étincelle qui vient de s'éteindre dans son sang ne peut être rallumée par aucun effort humain. Mes gens, sauf le petit nombre qui m'entoure en ce moment, n'attendent que ma présence pour transporter ces restes honorés à leur dernière demeure. Lady Rowena désire retourner à Rotherwood, et il faut qu'elle soit escortée par une force suffisante. J'aurais donc déjà quitté ces lieux, si je n'avais attendu, non le partage du butin, car s'il plaît à Dieu et à Saint-Witold, ni moi ni aucun des miens nous ne toucherons la valeur d'un penny. Si je n'avais attendu pour te faire mes remerciements, à toi et à tes braves yeomen, d'avoir sauvé la vie et l'honneur à ma noble pupille.
Non, non, dit le chef à Outlaw, nous n'avons fait tout au plus que la moitié de la besogne. Prends dans ce butin ce qu'il faut pour récompenser tes voisins et tes serviteurs.
Je suis assez riche pour les récompenser de mes propres biens, répondit Cédric.
Et quelques-uns d'entre eux, dit Wamba, ont été assez sages pour se récompenser eux-mêmes. Tous ne sont pas partis les mains vides. Nous ne portons pas tous la marotte.
Ils en étaient les maîtres, dit Locksley. Nos lois ne sont obligatoires que pour nous-mêmes.
Mais toi, mon pauvre Varlet, dit Cédric en se retournant pour embrasser le bouffon, comment pourrais-je te récompenser, toi qui n'as pas craint d'affronter les chaînes et la mort pour te mettre à ma place? Tous m'abandonnaient, et le pauvre fou resta seul fidèle.
Une larme brilla dans l'œil du vieux Tan tandis qu'il parlait, marque de sympathie que la mort même d'Athelstan ne lui avait pas arrachée. Mais il y avait, dans l'attachement à moitié instinctif de son bouffon, quelque chose qui secouait sa nature d'une manière plus énergique que la douleur même.
« Eh, mais !» dit le bouffon en s'arrachant aux étreintes de son maître. « Si vous payez mon service avec l'eau de vos yeux, il faudra que le bouffon pleure de compagnie. Et alors, que deviendront ses fonctions ? Tenez, mon oncle, si vous voulez vraiment me faire plaisir, je vous prie de pardonner à mon camarade Goethe, qui a dérobé une semaine à votre service pour la donner à votre fils. »
Lui pardonner ? S'écria Cédric. Non seulement je lui pardonne, mais encore je le récompense. Agenouille-toi, Goethe.
Le porcher fut en un instant au pied de son maître. Théo Indesne, ni serf ni esclave, tu n'es plus, reprit Cédric, le touchant d'une baguette. Fod fui sacles, homme libre et dans la loi. Tu es dans la ville et hors de la ville, dans les champs comme hors de la forêt. Je te fais don de 40 arpents de terre dans mes domaines de Walwegam, que je cède, pour moi et les miens, à toi et aux tiens, à jamais et pour toujours. Et que la malédiction du ciel descende sur la tête de celui qui révoquerait ce don. Ravi d'être sorti de servage, enchanté de se trouver homme libre et propriétaire, Goethe sauta sur ses pieds et bondit deux fois presque à la hauteur de sa tête. « Un forgeron et une lime » cria-t-il, « pour enlever ce collier du cou d'un homme libre. » Mon noble maître, votre don a doublé ma force, et je me battrai pour vous avec un double courage. Il y a un cœur libre dans ma poitrine. Je me sens tout changé, et tout change pour moi. Ah, Fangs, ajouta-t-il, te voilà.
Car le fidèle animal, en voyant son maître ainsi transporté, s'était mis à sauter sur lui pour lui exprimer sa sympathie.
Connais-tu encore ton maître ?
Oui, dit Wamba.
Fangs et moi, nous te connaissons encore, Gert, quoique nous portions toujours le collier. C'est toi qui, sans doute, nous oublieras bientôt, et t'oublieras toi-même.
Je m'oublierai, en effet, moi-même, avant de t'oublier, bon camarade, répondit Gert.
Et si la liberté te convenait, Wamba, ton maître te la donnerait.
Non, non, dit Wamba, je ne te porterai jamais en vie, frère Gert. Le cerf reste assis au coin du feu pendant que l'homme franc est obligé d'aller à la guerre. Que dit Olem de Mansbury? Mieux vaut un fou dans un festin qu'un sage dans une escarmouche.
Un piétinement de chevaux se fit alors entendre, et Lady Rowena parut, entourée de plusieurs cavaliers et d'une troupe encore plus nombreuse de fantassins, agitant leurs piques et faisant résonner leurs haches en signe de joie pour sa délivrance. La belle Saxonne elle-même, richement vêtue et montée sur un palfroy d'un brun foncé, avait repris toute la distinction de ses manières. Une pâleur inaccoutumée révélait seule ce qu'elle avait souffert. Son front délicat, quoique assombri encore, paraissait animé à la fois par une pensée d'espérance et par un sentiment de gratitude. On lui avait appris qu'Ivanhoé vivait et qu'Athelstan était mort. La première nouvelle avait rempli son cœur du plus sincère ravissement, et si la seconde ne l'avait pas profondément affligée, on peut lui pardonner, en songeant que par là, elle se voyait affranchie de la seule contradiction que lui eût jamais fait éprouver son tuteur Cédric. Lorsque Rowena dirigea son cheval vers le trône de Locksley, le vaillant yeoman et tous ses archers se levèrent pour la recevoir, comme par un instinct naturel de courtoisie. Le sang afflua à ses joues, lorsque, saluant de la main et inclinant la tête si bas que ses belles tresses pendantes se mêlèrent pour un moment à la crinière flottante de son palfroy, elle exprima en peu de mots, mais en termes flatteurs, sa reconnaissance envers Locksley et ses autres libérateurs. « Que Dieu vous bénisse, homme brave » ajouta-t-elle. « Que Dieu et Notre-Dame vous bénissent et vous récompensent de vous être si vaillamment exposés pour la cause des opprimés. Si jamais quelqu'un de vous a faim, souvenez-vous que Rowena peut le nourrir. Si vous avez soif, qu'elle a main muit de devin et d'ale brune. Et si les Normands vous expulsent de ces forêts, Rowena a aussi des forêts où ses vaillants défenseurs pourront errer en pleine liberté sans qu'aucun garde vienne jamais leur demander quelle flèche a abattu le daim. »
« Bien des grâces, noble lady, répondit Locksley. Je vous remercie pour mes compagnons et pour moi. Mais c'est déjà une récompense que de vous avoir sauvés. Nous qui errons sous la feuillée, nous avons plus d'une chose à nous reprocher. Mais la délivrance de Lady Rowena sera peut-être admise là-haut comme expiation. » Rowena, les ayant salués de nouveau, se disposait à prendre congé d'eux. Mais, s'étant arrêtée un instant pendant que Cédric, qui devait l'accompagner, faisait aussi ses adieux, elle se trouva inopinément près du prisonnier de Bracy. Il était debout sous un arbre, absorbé dans une profonde rêverie, les bras croisés sur sa poitrine, et Rowena espérait pouvoir passer devant lui inaperçu. Mais il leva les yeux, et à la vue de la noble Saxonne, le rouge de la honte lui monta au visage. Un instant, il demeura irrésolu. Puis, s'avançant vers elle, il saisit les rênes de son palfroy et plia un genou en terre. « Lady Rowena, daignera-t-elle jeter les yeux sur un chevalier captif, sur un soldat déshonoré ?»«
Messire chevalier, répondit Rowena, dans des entreprises telles que les vôtres, le déshonneur se trouve dans le succès et non dans la défaite. »
« Le triomphe, madame, doit adoucir le cœur, répondit de Bracy. Que j'apprenne seulement que Lady Rowena pardonne la violence occasionnée par une passion funeste, et elle verra bientôt que de Bracy sait la servir plus noblement.
Comme chrétienne, je vous pardonne, sire chevalier, dit Rowena.
Ce qui signifie, insinua Wamba, qu'elle ne lui pardonne pas du tout.
Mais, continua Rowena, je ne pourrai jamais oublier les malheurs et la désolation qui sont résultés de votre folie.
Lâche la bride du cheval de cette dame, s'écria Cédric en accourant vers eux.
Par le soleil qui nous éclaire, sans la honte qui me retient, je te clouerai en terre avec mon javelot. Mais sois bien assuré, Maurice de Bracy, que tu porteras la peine de la part que tu as prise à cette infâme action.
Il menace sans danger celui qui menace un prisonnier, dit de Bracy.
Mais quand un Saxon connut-il jamais un sentiment de courtoisie?
Puis, se retirant de quelques pas en arrière, il laissa passer Rowena. Cédric, avant de s'éloigner, témoigna sa reconnaissance particulière au chevalier noir et le pria vivement de les accompagner à Rotherwood.
« Je sais, dit-il, que vous autres, chevaliers errants, vous aimez à porter votre fortune au bout de votre lance et que vous ne vous souciez guère des terres ni des biens. Mais la guerre est une maîtresse inconstante, et même pour le champion dont le métier est d'errer çà et là, un foyer est quelquefois désirable. Tu en as un dans les salles de Rotherwood, noble chevalier. Cédric est assez riche pour réparer les torts de la fortune, et tout ce qu'il possède est à la disposition de son libérateur. Viens donc à Rotherwood, non comme un hôte étranger, mais comme un fils ou comme un frère.
Cédric m'a déjà rendu riche, répondit le chevalier. Il m'a appris à connaître le prix de la valeur saxonne.
J'irai certainement à Rotherwood, brave Saxon, j'irai avant peu. Mais en ce moment, des affaires pressantes et importantes m'éloignent de ta demeure. Au surplus, quand j'y viendrai, il se peut que je te demande un sacrifice qui mette ta générosité à l'épreuve.
Il est accordé d'avance,
s'écria Cédric en frappant de sa main ouverte sur la paume gantelée du chevalier noir.
« Il est accordé d'avance. Dût-il exiger la moitié de ma fortune ?»«
N'engage pas ta parole si légèrement, » reprit le chevalier au cadenas.
« Cependant, j'espère bien obtenir le don que je demanderai.
En attendant, adieu. »
« Il me reste à te dire, » ajouta le Saxon, « que pendant les funérailles du noble Athelstane, je résiderai dans les murs de son château de Königsbourg. Il sera ouvert à tous ceux qui voudront part au banquet mortuaire. Et je parle au nom de la noble Edith, mère du malheureux prince. Le château de Königsbourg ne sera jamais fermé à celui qui s'est efforcé si courageusement, quoique sans succès, de délivrer son fils du fer et du joug des Normands.
« Oui, sire !» s'écria Wamba, qui avait repris son poste auprès de son maître.
« Il y aura là un grand festin. C'est dommage que le noble Athelstane ne puisse assister au banquet de ses funérailles. Mais, » continua le bouffon en levant gravement les yeux vers le ciel, « il soupe ce soir dans le paradis, et sans doute il y fait honneur à la bonne chère. »
« Tais-toi et va-t'en !»
dit Cédric, dont la colère à cette plaisanterie inopportune fut tempérée par le souvenir des services récents de Wamba.
Rowena salua gracieusement le chevalier au cadenas en signe d'adieu. Le Saxon invoqua pour lui la bénédiction de Dieu, puis il se mit en route à travers une large clairière de la forêt. À peine les avait-on perdus de vue qu'un cortège se montra tout à coup dans le bois vert, fit lentement le tour de l'amphithéâtre champêtre et suivit la même direction que Rowena et sa suite. C'étaient les moines d'un couvent voisin, qui, dans l'espérance de la généreuse donation, ou soutzit, que Cédric avait promise, suivaient d'un pas lugubre et mesuré, et en chantant des hymnes, le catafalque où le corps d'Athelstane avait été placé, et que des vassaux portaient sur leurs épaules au château de Königsbourg, où il devait être déposé dans le tombeau d'Angist, dont le défunt terminait la longue descendance. Un grand nombre de ses vassaux s'étaient réunis à la nouvelle de sa mort et suivaient la bière avec toutes les marques, au moins extérieures, de l'abattement et de la douleur. Les outlaws se levèrent une seconde fois et spontanément rendirent à la mort le même hommage qu'ils venaient de rendre à la jeunesse et à la beauté. Le chant solennel et le pas lugubre des prêtres rappelèrent à leur souvenir ceux de leurs camarades qui avaient succombé dans le combat de la veille. Mais ces souvenirs sont fugitifs chez ceux qui mènent une vie d'aventure et de péril. Et avant que le son de ce chant funèbre eût cessé de se faire entendre, les outlaws s'étaient remis à la distribution du butin. « Vaillant champion, » dit Locklé au chevalier noir, « toi, sans le grand cœur et le bras fort duquel notre entreprise eût entièrement échoué, te plairait-il de prendre dans cette masse de dépouilles ce qui te conviendra le mieux, afin de rappeler à ton souvenir le chêne de l'arc ?»«
J'accepte ton offre aussi franchement qu'elle est faite, » répliqua le chevalier.
« Et je te demande la permission de disposer de Sir Maurice de Bracy selon mon bon plaisir. »«
Il t'appartient, » reprit Locksley,
« et bien lui en prend. Sans cela, l'oppresseur eût tourné la plus haute branche de ce chêne avec autant de ses francs compagnons que nous en aurions pu rassembler et que nous aurions suspendu autour de lui aussi pressé que des glands. Mais il est emprisonné et sa vie est en sûreté. Eût-il même tué mon père ?»
« De Bracy, » dit alors le chevalier, « tu es libre, tu peux partir. Celui dont tu es le prisonnier dédaigne une basse vengeance du passé. Mais prends garde à l'avenir, il pourrait te devenir funeste. Maurice de Bracy, je te le répète, prends garde. »
De Bracy s'inclina profondément sans répondre, et il allait se retirer quand les yéomènes firent pleuvoir sur lui une grêle de malédictions et de sarcasmes. Le fier chevalier s'arrêta tout à coup, se retourna vers eux, et se redressant de toute sa hauteur en croisant les bras, il s'écria
« Silence, ô chien glapissant ! Vous qui aboyez sur le cerf, mais qui n'oseriez l'approcher quand il est aux abois ! De Bracy méprise vos injures, comme il dédaignait vos éloges. Allez-vous blottir derrière vos broussailles et dans vos souterrains, bandits hors la loi ! Vous devriez garder le silence quand quelque chose de chevaleresque ou de noble se dit, fût-ce à une lieue de vos tanières. »
Ce défi maladroit aurait valu à De Bracy une volée de flèches, sans l'intervention prompte et impérative du chef des outlaws. Pendant ce temps, le chevalier saisit un cheval par la bride, car plusieurs de ceux qu'on avait pris dans les écuries de Front de Bœuf et qui formaient une partie précieuse du butin, étaient à paître aux alentours, couverts encore de leur harnais. Il se jeta en selle et s'enfonça au galop dans le bois. Lorsque la confusion causée par cet incident se fut un peu apaisée, le chef des outlaws détacha de son cou le corps de chasse et le baudrier qu'il avait récemment gagné au tir d'Asby. « Noble guerrier, » dit-il au chevalier noir, « si vous ne dédaignez pas d'accepter ce corps de chasse qu'un yeoman anglais a porté sur lui, je vous prie de garder celui-ci en souvenir de votre vaillante conduite. Et si jamais, comme il peut arriver au plus brave chevalier, vous vous trouviez rudement serré dans quelque forêt entre le Chouant et le Cheese, sonnez trois mots ainsi.
« Wa-sa-wa !»
Et il se pourra faire que vous trouviez des auxiliaires et du secours. » Il souffla alors dans le corps et répéta à plusieurs reprises l'appel qu'il venait de faire, pour graver dans la mémoire du chevalier les sons qu'il indiquait.
« Grand merci de ton cadeau, brave yeoman, » dit le chevalier noir.
« Dans un danger pressant, je ne demanderai jamais un meilleur soutien que toi et tes braves archers. » Puis à son tour, il emboucha le corps et fit retentir la forêt des mêmes sons d'appel.
« Bien et clairement sonné, » dit le yeoman.
« Ma foi, je veux être damné si tu ne connais pas aussi bien le métier des forêts que celui de la guerre. Je parie que tu as été dans ton temps un rude abatteur de daims. Camarade, » continua-t-il en s'adressant aux archers, « souvenez-vous de ces trois mots. C'est l'appel du chevalier au cadenas, et celui qui l'entendrait et qui ne se hâterait pas de courir à son aide serait fustigé avec la corde de son propre arc et chassé de notre compagnie.
« Vive notre chef !» s'écrièrent les yéomènes, « et vive le chevalier noir au cadenas. Puisse-t-il nous fournir bientôt l'occasion de lui prouver combien nous désirons lui être utile ?»
Locksley procéda alors à la distribution des dépouilles et s'en acquitta avec la plus louable impartialité. La dixième partie du butin fut mise de côté pour l'église et pour de pieux usages. Une portion fut ensuite consignée à une espèce de trésor public. Une troisième partie fut assignée aux veuves et aux enfants de ceux qui avaient péri, ou bien faire dire des messes pour l'âme de ceux qui ne laissaient pas de famille après eux. Le reste fut partagé entre les outlaws, selon le rang et le mérite de chacun, et le jugement du chef sur toutes les questions douteuses qui se présentèrent fut rendu avec beaucoup de sagacité et reçu avec une soumission parfaite. Le chevalier noir ne fut pas médiocrement surpris de voir que des hommes vivant ainsi en rébellion contre les lois de la société se gouvernassent entre eux d'une manière si régulière et si équitable. Et tout ce qu'il observa ajouta encore à la bonne opinion qu'il avait conçue de la justice et du bon sens de leur capitaine. Lorsque chacun eut pris la part de butin qui lui était dévolue, et tandis que le trésorier, aidé de 4 vigoureux yéomènes, se mettait en devoir de transporter en lieu sûr ce qui appartenait à la société, la portion réservée à l'église était restée sans maître. « Je voudrais, dit le chef, avoir des nouvelles de notre joyeux chapelain. Jamais il ne s'est absenté au moment de bénir un festin ou de partager des dépouilles, et c'est à lui de prendre soin de cette dîme de notre heureuse expédition. » Peut-être ses fonctions ont-elles servi à couvrir quelques-unes de ces irrégularités canoniques. J'ai d'ailleurs, non loin d'ici, un saint frère de son ordre, qui est notre prisonnier, et je voudrais que le moine fût ici pour m'aider à le traiter d'une manière convenable. Mais je crains fort de ne plus revoir notre belliqueux chapelain.
« J'en serais très fâché, » dit le chevalier au cadenas,
« car je lui suis redevable de la joyeuse hospitalité d'une nuit passée dans sa cellule. Rendons-nous aux ruines du château. Peut-être aurons-nous là plus promptement de ses nouvelles. » Tandis qu'il parlait ainsi, une grande clameur parmi les yéomènes annonça l'arrivée de celui pour lequel il craignait, et on n'en put douter en entendant la voix de Stentor, du moine, longtemps avant l'apparition du replet personnage.
« Place, joyeux camarade !» s'écria-t-il. « Place à votre père spirituel et à son prisonnier. Acclamez encore une fois notre bienvenue. Je viens, noble capitaine, comme un aigle, avec ma proie dans mes griffes. »
Puis, se frayant un chemin à travers le cercle, au milieu du rire de tous les assistants, il apparut d'un air de majestueux triomphe, tenant d'une main sa lourde pertuisane, et de l'autre une corde, dont une extrémité était attachée au cou du malheureux Isaac d'York, qui, courbé sous le chagrin et la terreur, se laissait traîner par le prêtre victorieux, criant à plein poumon.
« Où est Alan Adal pour composer en mon honneur une ballade ou une chanson? Par Saint Hermangild, ce mauvais ménestrel est toujours absent quand il se présente une occasion de célébrer la valeur. »
« Brave ermite, dit le capitaine, je vois que, quoi qu'il soit de bonne heure, tu as assisté ce matin à une messe humide. Mais au nom de Saint-Nicolas, quel gibier nous amènes-tu là ?»«
Un captif, dû à ma lance et à mon épée, »
répliqua le clerc de Copmanhurst. « Je devrais plutôt dire à mon arc et à ma hallebarde. Et cependant je l'ai délivré, par mes saintes instructions, d'une captivité plus sérieuse. » « Parle, juif, ne t'ai-je pas racheté des griffes de Satan? Ne t'ai-je pas enseigné ton credo, ton pater et ton ave maria? N'ai-je pas passé la nuit entière à boire à ta conversion et à t'expliquer les mystères? »
« Pour l'amour du ciel !» s'écria le pauvre juif. « Personne ne me tirera-t-il des mains de ce fou, je veux dire de ce saint homme ?»«
Que dis-tu là, juif ?»
s'écria le moine avec un regard menaçant.
« Est-ce que tu te rétractes ? Réfléchis, car si tu retombes dans ton infidélité, bien que tu ne sois pas aussi tendre qu'un cochon de lait, plût à Dieu que j'en eusse un pour mon déjeuner. Tu n'es pas assez coriace pour ne pas être rôti. Reste fidèle, Isaac. Répète avec moi ton Ave Maria. »
« Allons, point de profanation, prêtre enragé, » dit Locksley. « Dis-nous plutôt où tu as trouvé ton prisonnier. »
par Saint Dunstan, répondit le moine. Je l'ai trouvé où je cherchais les meilleures marchandises. J'étais descendu dans les caves pour voir ce qu'on en pouvait sauver. Car quoiqu'une coupe de vin chaud avec des épices soit une boisson nocturne digne d'un empereur, il me semblait qu'il y aurait gaspillage à en faire tant chauffer à la fois. J'avais saisi un petit baril des Canaries, et je me disposais à appeler à mon aide quelques-uns de ces drôles de paresseux, qu'il faut toujours chercher lorsqu'il y a une bonne œuvre à faire, quand j'avisai une porte assez solide. « Ah ah !» pensai-je, « c'est là sans doute que sont les vins de choix, et le coquin de sommelier, dérangé dans ses occupations, a laissé la clé sur la porte. » J'entrai donc, et tout ce que je trouvai fut un amas de chaînes rouillées et ce chien de juif, qui se rendit aussitôt mon prisonnier, secouru ou non secouru. Je n'avais eu que le temps de me rafraîchir, avec ce mécréant, d'une coupe pétillante de vin des Canaries, et j'allais emmener ma capture, quand tout à coup un bruit terrible se fit entendre. Les briques d'une tour extérieure descendirent et barrèrent le passage. Que le diable enlève ceux qui ne l'ont pas faite plus solide! Le fracas d'une tour croulante fut suivi du fracas d'une autre chute. Je perdis tout espoir de la vie, et considérant que ce serait un déshonneur pour un homme de ma profession de quitter ce monde dans la société d'un juif, je levai ma hallebarde pour lui casser la tête. Mais j'eus pitié de ses cheveux gris, et je pensai qu'il valait mieux déposer ma pertuisane et me servir, pour tenter sa conversion, de mes armes spirituelles. Et en effet, par la bénédiction de Saint Dunstan, la semence est tombée dans un bon terrain. Seulement, je me sens la tête fatiguée de lui avoir expliqué nos saints mystères pendant toute la nuit. Cela à peu près à jeun, car on ne saurait compter les quelques gorgées de vin des Canaries dont je me rafraîchissais de temps à autre le gosier. Ma tête est assez étourdie, je l'avoue. Guibert et Wibald savent très bien dans quel état ils m'ont trouvé, tout à fait épuisé. Nous pouvons rendre témoignage, dit Guibert, que lorsque nous avons eu déblayé les ruines, dégagé l'escalier du donjon, avec le secours de Saint Dunstan, nous avons trouvé le baril des Canaries à moitié vide, le juif à moitié mort, et le père plus d'à moitié épuisé, comme il dit.
« Vous êtes des drôles, vous mentez !» répliqua le moine offensé.
« C'est vous et vos compagnons gloutons qui avez vidé le baril des Canaries en l'appelant votre coup du matin. Je veux être païen si je ne le destinais pas pour l'usage de notre capitaine. Mais au surplus, qu'importe, le juif est converti et il comprend tout ce que je lui ai dit presque aussi bien, sinon tout à fait aussi bien que moi-même.
« Juif ?» demanda le capitaine. « Est-ce vrai? As-tu abjuré ta croyance ?»«
Puis-je trouver miséricorde à vos yeux ?» répondit le juif. « Comme il est vrai que je n'ai pas compris un mot de tout ce que ce révérend prélat m'a dit pendant cette terrible nuit. Hélas, j'étais tellement troublé par les angoisses de la crainte et de la douleur que si notre vénérable père Abraham lui-même fût venu m'exhorter, il m'aurait trouvé sourd à sa voix. »
« Tu mens, juif, tu le sais bien, » dit le moine.
« Je ne veux te rappeler qu'un seul mot de notre conférence. Tu as promis de donner tous tes biens à notre saint ordre. »«
Que tous les patriarches me soient en aide, mes bons seigneurs !» dit Isaac, encore plus alarmé qu'auparavant.
« Aucune parole de ce genre n'est sortie de ma bouche. » Hélas, je suis un pauvre vieillard réduit à la misère. Je viens peut-être de perdre ma fille unique. Ayez pitié de moi et laissez-moi partir.
Non pas, s'écria le moine. Si tu rétractes des vœux faits en faveur de la Sainte Église, il faut que tu fasses pénitence.
Élevant sa lourde hallebarde, il allait en appliquer rudement le manche sur les épaules du juif lorsque le chevalier noir l'arrêta, ce qui attira sur lui la colère du fougueux ermite.
« Par saint Thomas de Quinte, dit-il, si je m'y mets, sire fainéant, je t'apprendrai, malgré ton habit de fer, à te mêler de tes propres affaires. »«
Ne te fâche pas contre moi, dit le chevalier. Tu sais que je suis ton ami juré et ton camarade. »«
Je ne sais rien de tout cela, répondit le moine, et je te défie comme un intruventard. »
Mais,
dit le chevalier, qui semblait prendre plaisir à provoquer son hôte de l'avant-veille.
« As-tu oublié comment ? Par amour pour moi, car je ne dis rien de la tentation de la cruche et du pâté. Tu as rompu ton vœu de jeûne et de veille ?»«
En vérité, dit le père en serrant son poing énorme, je vais t'octroyer un orion. »«
Je n'accepte pas de pareils présents, dit le chevalier. Je me contenterai de prendre ton soufflet comme un prêt, mais je te le rendrai avec des intérêts tels que jamais ton prisonnier le juif n'en a extorqué dans son trafic. »
C'est ce dont je veux avoir la preuve à l'instant même, dit le moine.
Oh là ! S'écria le capitaine. Que fais-tu donc, prêtre enragé ? Une querelle sous notre grand chêne ?
Ce n'est pas une querelle, reprit le chevalier. Ce n'est qu'un échange amical de courtoisie. Moine, frappe si tu l'oses. Je supporterai ton coup si tu consens à supporter le mien.
Tu as l'avantage avec ce pot de fer sur ta tête, dit le moine. Mais voici pour toi. Tu vas tomber, fusses-tu Goliath avec son casque d'airain.
Le frère mit à nu jusqu'au coude son bras musculeux, et employant toute sa force, il porta au chevalier un coup de poing qui aurait pu assommer un bœuf. Mais son adversaire resta ferme comme un roc. Un cri immense éclata parmi tous les yéomènes rassemblés, car le coup de poing du clerc était passé chez eux en proverbe, et il y en avait peu d'entre eux qui, au sérieux ou en plaisanterie, n'eussent eu l'occasion d'en connaître la vigueur.
« Maintenant, prêtre, dit le chevalier en ôtant son gantelet, ma tête a un avantage, mon bras n'en aura pas. Tiens-toi ferme, comme un homme de cœur.
« Quedam meam dedi vapulatori, j'ai donné ma joue au souffleteur, dit le prêtre. Si tu as la force de me faire broncher, mon drôle, je te donnerai pour rien la rançon du juif. »
Ainsi parla le prêtre athlétique, en prenant de son côté un air de grand défi. Mais quel est l'homme qui peut lutter contre sa destinée ? Le coup de poing du chevalier fut donné avec tant de force et de si bon cœur que le moine roula sur l'herbe, au grand étonnement de tous les spectateurs. Mais il se releva, sans montrer ni confusion ni colère.
« Frère, dit-il au chevalier, tu aurais dû user de ta force avec plus de ménagement. J'aurais bredouillé la messe si tu m'avais brisé la mâchoire, car celui-là chante mal qui n'a pas toutes ses dents. Néanmoins, voici ma main en témoignage amical que je ne veux plus échanger de coups de poing avec toi, ayant perdu mon pari. Trêve à toute inimitié. Mettons le juif à rançon, puisque le léopard ne change pas de peau et qu'il persiste à rester juif. »
Le prêtre gaillard, dit Clément, a perdu la moitié de sa confiance dans la conversion du juif depuis qu'il a reçu un bon coup sur les oreilles.
« Chut, rustre ! Que parles-tu de conversion ? » dit le moine.
« N'y a-t-il donc plus de respect ici ? N'y a-t-il plus que des maîtres et point de serviteurs ?
Je dis, drôle, que j'étais un peu fatigué quand j'ai reçu le horion du bon chevalier, sans quoi j'eusse tenu bon. Mais si tu en ravages un mot de plus, je t'apprendrai que je donne toujours autant que je reçois. »
« Silence, tous !» cria le capitaine. « Et toi, juif, songe à ta rançon. Je n'ai pas besoin de te dire que ta race passe pour maudite dans toutes les communautés chrétiennes. Et crois-moi, nous ne pouvons tolérer ta présence parmi nous. Réfléchis donc à l'offre que tu veux faire, pendant que je vais interroger un autre prisonnier.
A-t-on pris un grand nombre de soldats de front de bœuf ? Demanda le chevalier noir.
« Pas un d'assez notable pour être rançonné, répondit le capitaine. Il y en avait quelques-uns de bas étage que nous avons congédiés pour qu'ils se cherchent un nouveau maître. Nous avions assez fait pour la vengeance et pour le profit. Toute la troupe ne valait pas un quart d'écu. Mais le prisonnier dont je parle est une toute autre prise. C'est un joyeux moine chevauchant pour aller rendre visite à sa belle. » À en juger par le harnachement de son cheval et par ses beaux habits. Voici venir le digne prélat, aussi pimpant qu'un courtisan. »
Et l'on vit paraître, devant le trône du chef des archers, notre ancien ami, le prieur de Jorvaulx.